Chapitre 10. Un cri venu d'Europe. Dormir en apesanteur est un art qu'il faut avoir appris. Il avait fallu près d'une semaine à Floyd pour trouver la meilleure façon d'accrocher ses bras et ses jambes afin qu'il ne flotte pas dans des positions très inconfortables. Maintenant qu'il était devenu expert en la matière, il n'avait plus aucune envie de retrouver son poids normal et même cette idée lui donnait parfois des cauchemars. On le secouait pour le réveiller. Non, il devait être encore en train de rêver. L'intimité était quelque chose de sacré à bord du vaisseau spatial. Personne n'entrait dans la cabine d'un autre sans en demander la permission. Il garda les yeux fermés, mais on le secoua une fois de plus.
« Docteur Floyd, réveillez-vous, je vous prie. On vous demande à la cabine de pilotage. »
Et personne ne l'appelait plus Docteur Floyd. Il y avait des semaines qu'il n'avait rien entendu de plus officiel que « Doc ». Que se passait-il ? À regret, il ouvrit les yeux. Il était dans sa minuscule cabine, doucement retenu par son filet de couchage, lui disait une moitié de son esprit, tandis que l'autre lui faisait voir, quoi ? Europe ? Ils en étaient encore à plusieurs millions de kilomètres. Il voyait la forme réticulée déjà familière, le réseau de triangles et de polygones dessinés par l'entrecroisement des lignes, et sûrement c'était là le Grand Canal. Non, ce n'était pas vraiment cela. Comment serait-ce possible, puisqu'il était toujours dans sa petite cabine, à bord de Léonov ?
Docteur Floyd !
Il se réveilla vraiment et vit que sa main gauche flottait à quelques centimètres devant ses yeux.
Étrange.
Les lignes de sa main faisaient un dessin presque identique à la carte d'Europe. Mais Mère Nature, avec son sens de l'économie, ne cesse de se répéter à des échelles immensément différentes, comme le tourbillon de la crème dans le café, les traînées de nuages d'un cyclone et les bras d'une nébuleuse spirale.
« Excusez-moi, Max, quel est le problème ? Quelque chose ne va pas ? Nous croyons que oui, mais pas pour nous. Tienne a des ennuis. »
Capitaine, navigateur et ingénieur en chef étaient sanglés sur leur siège dans la cabine de pilotage. Le reste de l'équipage, anxieux, s'accrochait aux poignées de retenue ou surveillait les écrans.
« Désolé de vous réveiller, Ewood, »
dit Tanya d'un ton brusque.
« Voici la situation. Il y a 10 minutes, nous avons reçu un priorité 1 du contrôle au sol. Tienne n'aimait plus. C'est arrivé tout d'un coup, au milieu d'un message en code. Il y a eu quelques secondes de transmission brouillée, puis rien. »
« Leur balise ? » ?»«
Elle n'aimait plus non plus. Nous ne la recevons plus. »
« Alors ce doit être sérieux. Une panne grave. Des hypothèses ? » ?»«
Des tas. » Mais ce ne sont que des suppositions. Explosion, glissement de terrain, tremblement de terre, qui sait ?
Et nous ne le saurons peut-être jamais, jusqu'à ce que quelqu'un se pose sur Europe, à moins que nous ne passions en rase-mode pour jeter un œil.
Tanya secoua la tête. Nous ne pouvons pas atteindre un vecteur suffisant. Au plus près, nous serions encore à 50 000 km. À cette distance, on ne voit pas grand-chose.
Alors nous ne pouvons absolument rien faire.
Pas exactement, Ewood. Le contrôle au sol nous a fait une suggestion. Ils aimeraient qu'on fasse pivoter la grande soucoupe juste pour voir si nous pouvons capter un émetteur de secours. C'est, comment dites-vous, un pari. Mais cela vaut la peine d'essayer. Qu'en pensez-vous ?
Floyd commença par s'opposer complètement à cette idée. Cela signifie que nous n'aurons plus aucun contact avec la Terre.
Bien sûr.
Mais il le faudra bien de toute façon quand nous ferons le tour de Jupiter.
Et il ne faut que 2 minutes pour rétablir le contact.
Floyd ne dit rien. La suggestion était parfaitement raisonnable, mais elle le troublait de façon obscure. Après quelques secondes de réflexion, il comprit soudain ce qui l'inquiétait tellement. Les ennuis de Discovery avaient commencé quand la grande soucoupe, toute la structure de l'antenne principale, avait perdu son orientation terrestre pour des raisons qui n'étaient toujours pas très claires. Mais Hal était concerné sans aucun doute, et il n'y avait aucun danger d'une situation semblable sur Léonov. Les ordinateurs de bord étaient relativement petits, autonomes, et aucune intelligence centrale ne les contrôlait. Aucune intelligence non humaine, en tout cas. Les Russes attendaient patiemment la réponse de leur partenaire.
« D'accord, » dit-il enfin. « Informons la Terre et mettons-nous à l'écoute.
Je suppose que vous essaierez toutes les fréquences de SOS spatial.
Oui, dès que nous aurons calculé les corrections dues à l'effet Doppler.
Comment cela se présente, Sacha ?
Donnez-moi encore 2 minutes et j'aurai un programme de recherche automatique. Combien de temps devrons-nous écouter ? Le capitaine hésita à peine avant de répondre. Floyd avait souvent admiré son esprit de décision et lui en avait même une fois fait compliment. Dans un de ses rares moments d'humour, elle lui avait répondu « Un commandant peut se tromper, Woody, mais hésiter, jamais. 50 minutes d'écoute, puis 10 minutes de contact avec la Terre. Puis recommencer. » Il n'y avait rien à voir ni à entendre. Les circuits automatiques savaient beaucoup mieux explorer les fréquences et filtrer les parasites que l'oreille humaine. Pourtant, Sacha mettait de temps en temps l'écoute sur haut-parleur et le grondement des radiations venues de Jupiter remplissait la cabine. On aurait cru le bruit des vagues déferlant sur toutes les plages de la Terre, brisées parfois par les explosions provoquées par les éclairs qui sillonnaient l'atmosphère jovienne. Aucune trace de signaux humains, et les membres de l'équipage qui n'étaient pas de service s'éclipsèrent les uns après les autres. Tout en attendant, Floyd faisait quelques calculs mentaux. Quoi qu'il soit arrivé à Tsien, il y avait déjà 2 heures de cela, puisque la nouvelle avait dû être relayée par la Terre. Mais Léonov devrait pouvoir capter un message en moins d'une minute, et les Chinois avaient déjà eu tout le temps de reprendre leurs émissions. Leur silence prolongé faisait craindre un désastre, et ils ne pouvaient s'empêcher d'imaginer d'innombrables scénarios catastrophiques. Les 50 minutes semblèrent durer plusieurs heures. Quand elles furent écoulées, Sacha fit pivoter de nouveau la grande antenne vers la Terre et annonça leur échec. Pendant qu'il employait le reste des 10 minutes à transmettre les messages en retard, il jeta un regard interrogateur au capitaine. « Cela vaut-il encore la peine d'essayer ? » dit-il d'une voix qui exprimait clairement son pessimisme.
« Bien sûr. Nous pourrons diminuer le temps d'écoute, mais nous n'arrêtons pas. »
À l'heure juste, l'antenne fut de nouveau braquée vers Europe. Et presque aussitôt, le détecteur automatique fit clignoter sa lampe rouge, alerte. La main de Sacha vola jusqu'au bouton de volume et la voix de Jupiter remplit la cabine. Superposée à cette rumeur, comme un murmure à travers une tempête, on entendait un bruit ténu mais reconnaissable, le son d'une voix humaine. Il était impossible de distinguer les paroles et pourtant, en écoutant le rythme et les intonations, Floyd était sûr que ce n'était pas du chinois, mais une langue européenne. Sacha joua en virtuose des réglages de fréquence et des filtres, et la voix devint plus claire. C'était de l'anglais, sans aucun doute, mais la voix restait inintelligible, de façon exaspérante. Il y a une combinaison sonore que l'oreille humaine peut déceler instantanément, même dans l'environnement le plus bruyant. Quand elle émergea brusquement du vacarme jovien, Floyd eut le sentiment qu'il ne s'était jamais réveillé, mais qu'il était pris au piège de quelque rêve fantastique. Ses collègues mirent un peu plus longtemps à réagir, puis ils le regardèrent, stupéfaits, avec au fond des yeux une lueur de compréhension. Les premiers mots qui leur venaient distinctement d'Europe étaient «
Docteur Floyd ! Docteur Floyd ! J'espère que vous m'entendez !»